Europe 1.
Invité ce dimanche matin sur Europe 1 et je l'en remercie infiniment, la romancière Karine Thuil. Karine Thuil, bonjour.
Bonjour.
Karine Thuil, il me semble que dans votre nouveau livre paru chez Gallimard, Les choses humaines, il y a deux livres. C'est-à-dire, en tout cas, il y a deux parties évidentes. Alors pour les auditeurs qui ne l'ont pas encore lu, en substance, c'est l'histoire de qui et de quoi ?
C'est l'histoire d'une famille, les Farrell. Le père, Jean, est à 70 ans, c'est un très grand journaliste politique qui anime une émission
avec
à la télé.
Avec un très gros égo.
Avec un très gros égo, qui est obsédé par la peur de vieillir, le désir de rester en place, hein, de rester à l'antenne. Il est marié à une femme un peu plus jeune que lui, qui a une quarantaine d'années, Claire, qui est une essayiste reconnue pour ses engagements féministes. Ensemble, ils ont un fils, Alexandre, qui a 21 ans, brillant étudiant, polytechnicien, étudiant à Stanford. Donc, en apparence, une famille influente et la voie royale. Et une accusation de viol va faire vaciller cette parfaite construction sociale.
Alors, en l'occurrence, l'accusation tombe sur les épaules d'Alexandre, qui aurait violé une jeune femme, qui se trouve être la fille du nouveau compagnon de Claire, puisque Claire a quitté Jean Farrell. Nous sommes d'accord. Bon, alors tout ça, ça campe, si vous voulez, le paysage. Mais dans cette première partie, vous avez voulu montrer quoi ? Une histoire sociale, une histoire sexuelle, une histoire de rapport homme-femme ? Qu'est-ce que vous avez voulu faire exactement ?
Tout cela à la fois. En fait, j'avais envie de raconter, de décrire le sexe dans sa version sublime.
Et ravageuse.
Et ravageuse.
Je cite une phrase qui me plaît beaucoup. « Le sexe est la tentation de saccage. Le sexe est son impulsion sauvage, tyrannique, incoercible. C'est à cela que Claire a cédé. »
Exactement, elle vit à 40 ans une très grande passion sexuelle et amoureuse qui va complètement bouleverser sa vie. Donc j'avais envie de raconter cela parce que je trouvais que c'était un élément intéressant et j'avais vu moi-même autour de moi des couples se défaire pour des passions sexuelles à la quarantaine.
Pour ces raisons-là. Oui.
Voilà, et puis je voulais aussi raconter et décrire le sexe comme instrument de pouvoir et de violence à travers la question du viol parce que j'avais... découvert un fait divers qui avait eu lieu aux États-Unis en 2016. Il y avait eu un grand procès aux États-Unis qui opposait un étudiant de Stanford, un peu comme mon personnage, brillant, sportif émérite, qui était accusé d'avoir violé une jeune femme sur le campus après une soirée un peu arrosée.
Lui disant qu'elle était consentante, classique.
Exactement, lui
et
disant elle était consentante, elle non. Et puis, donc c'était parole contre parole, mais il y avait eu des témoins dans cette affaire, alors que dans mon roman, il n'y a pas de témoins. Et puis, il y avait une vague d'indignation aux États-Unis parce que le verdict avait été considéré comme clément, 6 mois de prison, dont 3 fermes. Et donc, dès 2016, j'ai commencé à travailler sur ce sujet, donc bien avant
Weinstein,
MeToo. Finalement, cette question du rapport... à la violence, du sexe comme instrument de violence, j'avais envie d'en parler depuis longtemps. J'avais d'ailleurs été très marquée par une phrase de Norman Mailer qui avait dit « Au lit, les gens se massacrent ».
La deuxième partie du bouquin est tout aussi fascinante. Alors, moi, j'ai préféré la première pour tout vous dire, parce que étant journaliste et ayant assisté à des procès d'assises, elle m'a moins surpris, la deuxième partie. Mais bon, c'est le procès d'Alexandre, donc le violeur, présumé. Et là, c'est phénoménal, parce qu'on se dit, Karine Thuil, elle a passé un temps fou dans les prétoires des assises. Vous y êtes allée, vous avez vu.
Pendant 2 ans, j'ai assisté à de très
c'est comme du reportage,
voilà,
hein.
De très nombreux procès d'assises à
de
Paris,
viol.
Pour viol. Oui, oui. Et puis j'ai eu aussi accès à des dossiers classés, à des affaires classées, donc des PV d'audition, des entretiens de juges. Donc une matière extraordinairement riche qui m'a permis aussi de raconter et d'être au plus près de la vérité humaine dans ce livre. Parce que c'est toute la difficulté de ce sujet. C'est comment arriver à décrire cette mécanique, comment arriver à décrire ce que ressentent les personnages. D'autant que dans ce livre-là, j'ai choisi le point de vue de l'accusé et de sa famille.
Oui.
Donc il fallait véritablement se mettre dans la peau, dans la tête de ces gens, de savoir ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils pensaient, tout en accordant une place importante aussi à la parole de la victime dans le livre. Elle est là, elle est très présente, il y a des PV d'audition, on l'entend, sa voix, mais d'une autre façon.
Parce que cette jeune femme, elle ne voulait pas qu'il lui arrive ce qui lui est arrivé avec Alexandre, et pourtant, elle ne l'a pas frappé, par exemple, parce qu'elle avait peur de prendre des coups en retour, peut-être. Donc, Elle a à moitié consenti ou pas du tout?
Alors, c'est
non.
Alors non, elle n'a pas consenti. Et c'est là aussi tout l'intérêt de ce sujet, c'est que elle le dit à un moment, elle dit la zone grise, c'est une zone inventée par les hommes pour se disculper, pour dire elle était consentante, elle m'a suivi.
En fait, c'est oui ou non,
même
il y a
les
pas
avocats
de zone
disent
grise.
elle l'a bien cherché. Alors, en fait, on appelle ça au palais. Moi, je l'ai découvert. Hein, c'est une je ne connaissais pas tout cela. La sidération, c'est-à-dire la
Ouais.
victime est tellement tétanisée, prostrée, sidérée, qu'elle n'a pas le courage de dire non. Et
Et elle subit.
lui interprète certains signes. Il dit « les voyants étaient au vert, je peux y aller » et il passe en force. Donc, on est vraiment dans une zone mouvante, inquiétante. C'est parole contre parole au procès.
Ouais.
Mais nous, spectateurs de ce procès, on voit bien que la victime est détruite et on... Et l'avocat général le dit lui-même à chaque fois, et dans le livre je le dis aussi, il dit « Vous pensez sincèrement que cette jeune femme aurait répété cette version pendant 2, 3, 4 ans parfois d'instruction si elle, pour mentir ?» Non, elle ne ment pas, elle est là, elle dit la vérité, c'est sa vérité, et c'est parole contre parole. Et du coup, là, c'est vrai qu'il y a une intensité très particulière que j'ai essayé modestement de retranscrire
Non,
dans
vous
ce
avez très
roman.
bien réussi, vous n'avez pas essayé, c'est tout à fait étonnant, en tout cas comme rendu littéraire. Certains vous ont accusé de enfin, pas de complaisance, mais d'avoir été trop gentil avec la partie masculine de cette affaire-là, en disant, bah, bon, vous trouvez ça injuste
C'est
ou...
totalement injuste parce que moi je pense qu'au contraire, c'est faire preuve de manichéisme que de dire cela. C'est-à-dire que quand on va au palais de justice, on se rend compte que c'est une histoire de complexité. On est face à une complexité d'histoire, de vie, de trajectoire. Et donc on ne peut pas réduire les choses. Moi je suis résolument,
C'est tout l'intérêt
je
des
suis
procès d'assises.
résolument effectivement du côté des victimes. Mais il faut raconter la réalité du procès. Il ne faut pas oublier que c'est le procès de l'accusé. On oublie ça, mais en France, c'est ça. C'est le procès de l'accusé, c'est son destin qui se joue lors du procès. Les jurés vont décider de son sort. Va-t-il ou non être incarcéré?
On vous dit pas, hein, ce à quoi
Voilà.
est condamné
Et
Alexandre.
là, ça, les gens l'oublient. Ils pensent que c'est le procès de la victime. Et le doute profite à l'accusé en droit français.
Merci infiniment, Karine Thuil. Donc,
Merci
Les
à vous.
choses humaines, paru chez Gallimard. Ben, je vous souhaite bonne chance, hein, puisqu'il est dans la première sélection du Goncourt, votre livre. Il n'y a pas de raison que ça aboutisse pas. Hein. Merci
Merci.
et bon week-end à vous.
Merci à vous.